Le débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous. À la veille des 70 ans de l'Organisation mondiale de la santé, le débat du jour se penche ce soir sur ce que l'on appelle les médecines alternatives. Homéopathie, acupuncture ou encore ostéopathie. L'OMS en tout en recense 400. Cela ne plaît pas du tout à la médecine générale. Illustration en France, il y a quelques semaines, une tribune publiée dans la presse par plus de 100 professionnels de santé dénonce ces médecines dites douces, qualifiées de dangereuses au motif qu'elles ne reposeraient pas sur une démonstration scientifique. Alors est-ce qu'il faut donner raison à ces médecins et donc se méfier, voire condamner, comme ils le disent, les médecines alternatives? C'est notre débat ce soir. Et nos deux invités, d'abord Céline Berthier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin généraliste hein, et l'une des signataires de cette fameuse tribune donc, qui a été publiée à la fin du mois de mars dans le Figaro.
Tout à fait.
À vous, Daniel Simeka, bonsoir.
Bonsoir.
Médecin homéopathe, président de la Fédération française de la Société d'Homéopathie. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation de RFI. On va commencer avec vous, Daniel Simeka. Le terme médecine alternative, c'est un terme assez vaste, un peu flou. Comment est-ce qu'on peut le définir?
Ben écoutez, merci de dire que c'est flou, parce que c'est tout à fait exact. Je ne sais pas ce que sont les médecines alternatives. Je connais la médecine. Je suis médecin généraliste, installé depuis plus de 30 ans. Je vois des patients tous les jours. J'ai en face de moi une consoeur, signataire donc de cette tribune, qui est médecin généraliste aussi. On fait le même métier, nous avons le même diplôme, les mêmes préoccupations. Je pense qu'on le fait avec cœur et j'en suis sûr avec la même compétence. Donc médecine alternative, je ne sais pas ce que c'est. Je connais la médecine, je connais des thérapeutiques alternatives dont on pourra parler.
Et justement, vous Céline Berthier, vous n'êtes pas à la même définition. Comment vous distinguez médecine qu'on dit conventionnelle et médecine alternative?
Le mot-clé, je crois, c'est preuve, en fait. La médecine est une science, n'en déplaise à beaucoup de gens, et qui dit science dit preuve. Quelqu'un qui vient nous voir, il veut savoir ce qu'il a, il voudrait quelque chose qui marche. Je ne pense pas qu'on puisse être encore médecin si on lui propose quelque chose dont on sait pertinemment que ça ne marche pas.
Donc l'homéopathie, par exemple, dont vous êtes le président de la Fédération française, Daniel Simeka, s'appuie sur quelles preuves? Comme à citer.
Alors, d'abord, je voudrais rebondir.
Nécessité d'avoir des preuves.
Je voudrais rebondir. On peut pas se prétendre médecin si. Je crois que on est là très calme. Nous avons le même diplôme, chère madame, chère consoeur. Donc, contrairement à ce que vous dites dans cette tribune, je suis médecin. J'ai le même diplôme. J'exerce mon métier tous les jours avec cœur. Et donc, je n'ai pas. Je vous le dis avec vraiment tout le calme et la sérénité qu'il faut, de leçons de médecine à recevoir après 30 années d'exercice. Je vois tous les jours des patients, je ne fais pas que des thérapeutiques alternatives, je fais de la médecine dans sa globalité.
C'est ça
en
qui est dangereux,
fonction
c'est le mélange
de chaque
des genres.
Patient. Ouais. Il n'y a pas de mélange des genres, vous clivez dans cette tribune, vous décrivez une situation qui est extrêmement datée, c'est un débat moi je dois dire votre tribune m'a beaucoup plus surpris qu'attristé, car ce sont des arguments que l'on trouvait déjà il y a bien longtemps. À un moment, c'est vrai, où peut-être le niveau de preuve était insuffisant, et puis surtout au moment où il y avait une espèce de séparation entre les gens. Nous sommes aujourd'hui à l'heure de la médecine intégrative, et c'est pas la médecine intégrative, quand des oncologues nous adressent des patients pour les effets secondaires des chimiothérapies, c'est pas un mélange des genres, ou alors
placebo,
dites ça.
Ils vous adressent pour votre effet placebo, alors avant, c'est très bien, mais il faut le dire.
Avant d'écouter votre réponse, Céline Berthier, je voudrais avoir votre avis, Daniel Simeka, sur ce point-là. Quand le Conseil scientifique de l'Académie des sciences européennes estime qu'il n'y a aujourd'hui pas de preuve de l'efficacité de l'homéopathie, qu'est-ce que vous répondez?
Écoutez, moi, j'ai pas peur des acronymes et des académies. Je regarde, je suis un scientifique, vraiment.
Vous êtes tout seul dans votre coin et vous remettez en cause les académies des sciences européennes, américaines, australiennes, russes.
Je ne suis pas tout seul dans mon coin. Je sais que votre tribune le montre, vous êtes un petit peu au niveau de l'invective. Moi, je vais essayer de garder mon calme, de vous respecter, ce qui semble mal commencer dans l'autre sens. Je ne suis pas tout seul. En ce qui concerne les niveaux de preuve, je suis désolé, mais c'est pas avec des acronymes qu'on se bat, c'est avec des études. Les études, elles existent au niveau fondamental.
Elles sont négatives.
Elles existent, mais écoutez, ou alors vous les avez pas lues.
Aussi.
Ça arrive souvent.
J'ai
très souvent ce type d'échange, et je m'aperçois très souvent, quand il y a pas de micro ou c'est plus détendu, que au fond, en allant un petit peu au fond des choses, eh ben les confrères qui sont un petit peu, on va dire, anti, simplement parce qu'ils ont pas lus et on les a pas dirigés sur les études.
Alors Céline Berthier, votre réponse, c'est vrai que vous y allez pas de main morte dans cette tribune publiée donc dans le Figaro à la fin du mois de mars. Charlatan, vous dénoncez des méthodes dangereuses, vous demandez que l'ordre des médecins retire le titre de médecin, vous demandez que les médicaments soient déremboursés de la sécurité sociale.
À un moment donné, il faut dire ce qui est, il faut plus prendre les gens pour des imbéciles. Vraiment, moi, dans ma consultation tous les jours, je dois expliquer à des gens qu'ils ont été dupés. C'est fatigant, j'ai pas signé pour ça. Je pensais qu'on était tous d'accord, en fait, en faisant
médecine. Mais je pense que vous prenez les patients.
Laissez terminer Céline Berthier, s'il vous plaît, monsieur Sénéca.
Il faut séparer science et croyance. Si on veut entrer en résonance avec les croyances des patients, il faut être prêtre. C'est très bien, pas de problème. Mais c'est plus de la médecine. Il faut que
et alors les gens parliez de mélange des genres, mais vraiment, on est chez les prêtres là, dans les croyances.
Vous, est-ce que vous acceptez, Daniel Siméca, que les médecines douces reposent d'une certaine manière, les médecines dites douces, on dit alternatives, reposent d'une certaine manière sur la croyance, puisqu'il n'y a pas de fondement scientifique prouvé.
Mais si, je suis désolé.
On a cité le Conseil scientifique de l'Académie des sciences européennes concernant l'homéopathie.
Je n'ai pas peur des acronymes, des académies et des choses comme cela. Moi, je regarde les études. Quand je soigne mes patients tous les jours,
intégralement financées par Boiron,
l'étude EPI 3, elle n'a pas été financée par Boiron. C'est une étude épidémiologique, pharmaco-épidémiologique. C'est une étude pharmaco-épidémiologique. Si vous l'avez bien lue, on ne peut plus avoir le même regard sur l'homéopathie après avoir lu EPI 3, l'avoir lu avec honnêteté scientifique, en regardant les faits. C'est-à-dire que pour un budget qui représente quand même 0,29%, parce qu'on parle de déremboursement, 0,29% du prix des médicaments global en France, on a un médicament qui est sûr et qui soigne dans les trois orientations thérapeutiques qui sont vraiment les plus impactantes, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques, en gros les douleurs, les rhumatismes, l'anxiété, l'insomnie et les infections des voies aériennes respiratoires, les rhinopharyngites, etc. Les mêmes résultats qu'avec les médicaments classiques, avec une consommation bien moins d'anti-inflammatoires, d'antibiotiques,
on sait bien. Une collection de cas cliniques, c'est une observation. Une étude pour prouver quelque chose doit être randomisée. Alors, il doit y avoir des groupes de patients. Un qu'on attribue dans un groupe, un autre à qui on donne l'autre médicament.
Mais bien sûr que c'est randomisé, vous n'avez pas lu EPI 3.
La randomisation, c'est au-delà de l'observation. Ça ne peut pas...
Écoutez, les gens qui nous écoutent tapent étude EPI 3 sur leur moteur de recherche et ils verront que ce que vous dites est inexact.
C'est un exemple, Daniel Siméca. Est-ce qu'il n'y a pas, en tout cas, dans ces autres médecines, on va dire, du coup, pour ne pas utiliser le terme médecine douce, le risque de passer à côté de quelque chose de grave? Alors, je vais citer ce qui avait été cité concernant l'exemple de Steve Jobs. L'ex-patron d'Apple qui a soigné au départ une tumeur qui pouvait être prise à temps avec des médecines dites douces parallèles.
Mais je ne sais pas qui a pu le suivre pour cela. Moi, tous les jours, j'ai des patients malheureusement cancéreux qui viennent me voir. Ils ont des tumeurs et je peux vous dire que je ne les soigne pas avec des granules pour leurs tumeurs. D'abord, je veille à ce qu'ils soient suivis dans une équipe, à part une équipe d'oncologues compétents dans un bon hôpital. Et ensuite, autour du patient, si l'oncologue s'occupe du cancer, eh bien le médecin homéopathe que je suis, tous les jours, il s'occupe du patient cancéreux, de son moral, de son état général, de ses défenses immunitaires, des effets secondaires des médicaments. Donc, l'exemple que vous me donnez me paraît absolument abracadabrant.
Sa tumeur était opérable.
C'est là la clé.
Mais est-ce que vous avez un exemple d'un médecin français qui a demandé à un patient qui avait une tumeur de ne pas se faire opérer? Mais c'est pas sérieux.
À partir du moment faire coexister, c'est impossible. Parce qu'à partir du moment où on dit que ça marche pour les troubles du sommeil, pour les douleurs dentaires, pour des symptômes, discrets, ou après, comment expliquer que non, ça ne marche pas, que le vaccin contre la grippe, ce n'est pas un vrai vaccin, que les traitements anti-infectieux, ce ne sont pas des traitements anti-infectieux. Les gens, s'ils vous font confiance au départ, après, ils vous font confiance jusqu'au bout. C'est comme
mais
ça
non,
que Steve Jobs
que
a soigné son cancer
par
de l'acupuncture, parce qu'il y croyait. Et pourquoi ils y croient? Parce que nous médecins, certains médecins disent ça marche. Si les médecins ne se mêlaient plus de ça, si on remettait les thérapies non prouvées aux rebouteux, aux magnétiseurs, aux guérisseurs, les gens y croiraient beaucoup moins.
Mais l'accompagnement, par exemple, l'accompagnement justement à côté justement d'une chimiothérapie, mettons, pour un cancer.
L'effet placebo, c'est vraiment très bien, c'est génial, c'est 30%, on peut aider les gens.
Vous avez 30 ans de retard avec cet effet placebo.
Il faut le savoir, il faut en être conscient. À quel moment on peut être condescendant à ce point de dire à quelqu'un prenez ça, ça va marcher, et puis en fait de savoir soi-même que c'est un placebo. Moi, ça me choque.
Je crois surtout que c'est vous qui prenez les patients pour des imbéciles. Vous pensez qu'ils n'ont aucun discernement. Vous pensez que lorsqu'ils viennent pour un trouble du sommeil et lorsqu'ils viennent pour une infection grave, pour un diabète, vous pensez qu'ils sont suffisamment bêtes pour ne pas faire la différence.
C'est pas une question de bêtise, c'est une question de culture médicale.
Désolé,
il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ce que c'est qu'un niveau de preuve.
Aujourd'hui, nous sommes dans une pluridisciplinarité, nous sommes dans une médecine intégrative, et ça vous ne pouvez pas. Moi je vois tous les jours des gens qui viennent par exemple pour des lumbagos, qui viennent pour des cancers, etc. Souvent effectivement ils viennent en disant parce que nous avons le devoir, moi je suis médecin, j'ai le devoir de veiller à ce que mon patient il ait de nouveau confiance dans la médecine. Vous avez observé tout de même, pardonnez-moi, laissez-moi terminer, vous avez observé qu'il y a quand même une crise de confiance dans
la
médecine,
la crise de confiance,
elle est que justement dans ces cas-là, lorsque le patient nous dit, bah écoutez, regardez mon ordonnance, enlevez-moi s'il vous plaît toutes ces cochonneries, et moi je réponds non, et tous les médecins dignes de ce nom répondent non, nous allons trier, nous allons voir, nous allons expliquer, nous allons faire de l'éducation thérapeutique, et de l'éducation thérapeutique intégrée.
Crise de confiance,
les patients ne sont pas des imbéciles.
Est-ce qu'on peut même parler de mouvement anti-science, selon vous, Céline Berthier, à travers le développement de ces médecines-là?
On voit des patients qui n'ont plus confiance dans la science.
Ne faites pas un hold-up sur la science. Elle ne vous appartient pas à vous toute seule.
Alors très bien, pas de problème. Le fait est que quand on promeut une thérapie qui a été inventée, vous connaissez la date de naissance de l'inventeur de l'homéopathie? Une idée. 1755. Ça fait 250 ans qu'on fabrique ce genre de choses. À un moment donné, si ça marche, il faut le prouver.
Aujourd'hui, il y a 100 millions de personnes dans le monde.
Mais c'est un contre-argument.
Je suis vraiment navrée pour ces gens.
Depuis plus de deux siècles, si c'était de la poudre de perlimpinpin, ça se saurait. 50%.
Ça se sait, c'est prouvé.
50%
maintenant.
Des Français ne sont pas des imbéciles. Et donc, si depuis deux siècles, effectivement, les patients y sont attachés, c'est qu'ils ont les résultats. Vous m'avez asséné plusieurs fois l'épreuve. Je suis désolé, l'épreuve au niveau fondamental.
Vous regardez les études,
mais écoutez, vous les avez pas lues. C'est pas possible que vous puissiez dire ça.
Au-delà, on va élargir le débat et pas revenir sur justement. On l'a bien compris. Il y a deux lectures des choses sur justement l'efficacité de l'homéopathie. Moi, je voudrais savoir.
Je suis dans la position de celui qui se fait insulter.
Je voulais poser la question. Non, il y a pas d'insulte.
Je crois bien quand on dit que ce n'est pas de la médecine.
Attendez,
que moi, je suis médecin.
Madame Berthier, je voudrais savoir, est-ce que justement les médecines alternatives, alors comme par exemple l'homéopathie, est-ce qu'on peut pas aussi voir là une méthode douce avant d'en venir à une médecine plus conventionnelle? Par exemple, est-ce que dans un premier temps, pour quelqu'un qui ne va pas très bien, il vaut pas mieux utiliser de l'homéopathie avant éventuellement d'utiliser des antidépresseurs?
Donc en fait, c'est dangereux pour deux raisons. La première, parce que ça retarde le soin. Quelqu'un qui se croit soigné va aller un petit peu mieux. Et
alors aussi, il y a des médicaments lourds qui peuvent être utilisés à mauvais escient.
Alors tout à fait. La science, de toute façon, la médecine scientifique, par définition, ça évolue. Il y a des erreurs, il y a des hypothèses. On revient en arrière. Il y a eu des scandales terribles, Mediator. On est d'accord que ça progresse comme ça par à coup. Mais moi, ça progresse. L'homéopathie, stop, ça progresse pas, quoi.
Est-ce que les traitements homéopathiques sont toujours nécessaires?
Ils sont toujours utiles, mais pas toujours suffisants. Et bien souvent, moi, sur toutes mes ordonnances, tous les jours, il n'y a pas que de l'homéopathie. Lorsque je soigne un diabétique, un hypertendu, mais un hypertendu qui aussi peut-être dort mal, qui peut-être aussi passe une période légèrement dépressive. Vous preniez le cas de la dépression, cher consoeur. Mais chez un patient dépressif, vous dites, alors on lui donne de l'homéopathie, donc on retarde je ne sais pas quoi et on risque je ne sais pas quoi. Mais vous êtes au courant qu'en France, la surconsommation d'antidépresseurs, de psychotropes d'une façon générale, est une catastrophe.
Parce que
je suis persuadé que
vous avez vu
la
taille d'une ordonnance d'homéopathe. Combien il y a de lignes pour la prescription? L'homéopathie,
c'est pas vraiment ça. Vous n'avez pas vu les miennes et celles de mes confrères. Donc, Oui.
La médecine, je voudrais citer une phrase que j'ai lue du psychiatre Bruno Falissard. La médecine fait appel à la science, mais aussi à l'humain. Vous en pensez quoi, Céline Berthier?
Eh bien, c'est tout à fait ça. Et c'est l'humain qui me fait dire, quand je vois un patient, que j'ai pas envie de lui mentir. J'ai envie de lui dire, voilà ce qu'on sait, voilà ce que dans le monde entier, ce qui se passe. Aux États-Unis, sur les tubes d'homéopathie, l'inscription est obligatoire. Ce tube ne contient rien de particulier et n'a aucune efficacité prouvée. Je veux leur dire à ces personnes-là. C'est vraiment l'humain qui me fait dire, je veux aider mes patients jusqu'au bout. Je veux aussi leur dire quand on sait pas faire, quand il n'y a pas de traitement et la franchise, c'est pas toujours évident, mais les gens, ils apprécient ça.
Vous avez raison de le faire parce que vous n'êtes pas homéopathe, vous n'avez pas d'expertise particulière, vous faites de la médecine générale, ce qui est classique, ce qui est tout à fait honorable. Vous avez raison et je fais la même chose que vous, sauf que j'ai une expertise particulière qui peut me permettre dans certains
cas... Une expertise fantaisiste.
Mais voilà encore, vous voyez, je ne vous insulte pas. Moi, je pense que vous êtes une bonne médecin généraliste.
Vous avez déjà entendu parler du...
Mais vous ne me respectez pas. Je suis désolé. Je répète encore, nous avons le même diplôme. Ce débat est tout à fait déplacé de votre point de vue.
Je suis désolé que des gens intelligents
Est-ce que ce débat, justement, selon vous, ne révélerait-il pas un manque de temps de la part des médecins conventionnels? C'est également évoqué dans le développement des médecines douces.
Alors ça, c'est navrant si des médecins se mettent à prescrire ça parce que juste ils n'ont pas le temps. Vraiment, c'est désolant.
Le recours aux médecines alternatives pour compenser un accompagnement psychologique qui se fait moins de la part des médecins conventionnels, ils ont moins de temps.
Et ben ça c'est dommage, mais on le dit aussi.
C'est une réalité.
Le facteur temps, c'est pour tout le monde, on fait de la bonne médecine en prenant son temps.
On donne plus de temps aux généralistes pour accompagner leurs patients sans avoir à s'en débarrasser en prescrivant quelque chose qui ne marchera pas.
Sauf qu'aujourd'hui les généralistes ont moins de temps, on le sait.
Alors on réclame quelque chose pour ça aussi. Enfin je veux dire, on veut.
Nous le réclamons tous. Le temps c'est important.
Vous en pensez quoi justement des médecins? Cette lecture des choses, le rapport justement des généralistes qui ont moins de temps pour s'occuper des patients et du coup peut-être parfois recours aux médecines complémentaires, alternatives, douces.
Ah non, tout à fait. Il n'y a pas de rapport entre les deux. On est sur deux sujets. Le rapport au temps est essentiel pour faire de la bonne médecine, quels que soient les outils thérapeutiques qu'on utilise. Il faut quand même un minimum de temps. Après, le recours aux thérapeutiques alternatives, c'est autre chose. Il faut un petit peu plus de temps précisément. Parce que le diagnostic du bon médicament homéopathique suppose un interrogatoire un petit peu plus fin qu'en médecine générale classique. Mais le rapport au temps, c'est pour tout le monde. Nous avons besoin de temps pour nos patients, pour les écouter, pour avoir une qualité d'écoute et pour pouvoir choisir le traitement qui sera approprié et qui ne sera pas forcément alternatif. C'est pour cela que, je suis désolé, toute cette kyrielle d'arguments sont absolument datées. Cette tribune
est
datée.
Ils sont tout à fait d'actualité. L'Académie des sciences, c'est septembre 2017, le rapport.
Aujourd'hui, en 2018, avec l'étude EPI3, avec les études fondamentales sur l'aspirine, sur les dilutions, sur les hautes dilutions d'histamine, enfin, auditeurs peuvent aller...
Dans des milliards de litres d'eau.
Mais non, mais vous ne connaissez pas le problème des hautes dilutions. Il y a plein d'études qui sont faites, y compris sur la radioactivité et sur l'effet hormésis. Donc, il faut les lire pour pouvoir avoir une opinion sensée sur le sujet.
Il y a de plus en plus de noms de médecine alternative qui sortent ces dernières années. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un effet de mode, un rejet justement du mouvement scientifique à travers le développement de ces médecines-là?
Et de cela, nous nous méfions. Nous, médecins, nous nous méfions. Moi, je suis content quand un patient vient me voir parce que mon devoir, c'est d'éviter qu'il aille acheter de la poudre de perlimpinpin trouvée sur le web et qui va soigner je ne sais pas quoi, vendu par je ne sais pas qui et je ne sais où.
Justement, sur ce point-là,
on le ramène dans le giron de la médecine et dans le giron du raisonnable.
Le Centre contre les manipulations mentales estime que les médecines alternatives constituent une porte d'entrée vers les dérives sectaires.
Écoutez, une porte d'entrée par où? Je répète encore, nous sommes des médecins.
Par
il ne faut pas confondre les gens qui ne sont des non-médecins, qui proposent tout un tas de choses avec la pratique médicale d'approche alternative. Et cette approche alternative, elle est plébiscitée et par le public et par des services hospitaliers. Vous ne pouvez pas dire non plus que tous les services d'oncologie sont des imbéciles et pourtant ils nous adressent les patients.
C'est une Berthier, quelques mots de conclusion.
Le discours de défiance, il est alimenté par les médecins qui disent « moi je vais vous prescrire quelque chose qui n'aura pas d'effet indésirable et qui va vous soulager ». Comment voulez-vous que quelqu'un après se dise « ben puisqu'il y a quelque chose qui n'a pas d'effet indésirable, pourquoi j'irais me soigner autrement ?» Après nous, on peut plus soigner vraiment les gens parce qu'ils ont plus confiance. Et pourquoi ils n'ont pas confiance? Parce que ce sont des médecins qui ont promu ça.
Eh bien, merci, Céline Berthier. On a bien compris.
Vous n'a pas d'effet secondaire.
Vous ne serez pas d'accord. Et en salle, le débat est riche. Chacun a pu commencer. L'autre a pu terminer. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Médecin
à vous.
Généraliste, l'une des signataires de cette tribune dans le Figaro. Merci, Daniel Siméca, médecin homéopathe, président de la Fédération française de la Société d'homéopathie. Merci à Florence Ponce qui a préparé ce débat et à Claude Battista qui a l'air réalisé. Restez à l'écoute de RFI dans 30 secondes. C'est le retour de l'info.